France Inter. Journaliste, écrivain, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1 et de trois revues trimestrielles, America, Zadig et Légende, Eric Fotorino est aussi l'ancien directeur du journal Le Monde. L'auteur de Je pars demain, Korsakov, Caresse de rouge, Baiser de cinéma, L'homme qui m'aimait tout bas, Question à mon père, Chevrotine, Mon enfant, ma sœur ou encore du dictionnaire amoureux du vélo, vient de publier chez Gallimard le roman des gens sensibles, une plongée dans le monde de l'édition dans les années 90 à Paris. Voilà pour la présentation presse, en voici une plus subjective. Un jeune narrateur, Jean Foscolani, rêve d'être écrivain. Il va se lier d'amour et d'amitié avec un couple d'écorchés vifs constitué de Clara, éditrice solaire et désespérée, généreuse et dormant peu, ce qu'elle qualifie de vite, et de Saïd, grand écrivain algérien ayant fui la violence de son pays et fréquentant la douleur et l'alcool sous la garde permanente de policiers. Quant à Fosco, ça ressemble à Photo, mais c'est le surnom du narrateur, il ne sait pas qui est son père, comme le sieur Fotorino à une certaine époque et dont l'œuvre est traversée par cette question. Fosco, lui, c'est juste qu'il est un descendant de Berbère, information distillée par sa mère à laquelle il rend parfois visite à Royan quand Clara ne l'étouffe pas de sa tendresse. Un roman initiatique, délicat, tragique et sensible, comme les gens du titre. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Eric Fotorino.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose, c'était d'organiser une chasse aux œufs dans mon jardin pour mes petits-enfants.
Ils les ont tous trouvés ?
Je crois qu'ils ont tout trouvé, mais il m'est resté trois sucettes et je peux vous dire que celle-là, je ne les rends pas.
Si vous voyez des lapins obèses à un moment, c'est qu'ils n'auront pas tout trouvé. C'est votre 16e roman en 34 ans. N'avez-vous jamais de paresse avec tout ce que vous faites ?
De paresse, non, je crois que... Mais j'ai des envies de ralentir, d'aller moins vite. Et je crois que le seul endroit où je peux justement donner du temps, c'est l'écriture des livres.
Donc donner du temps à vous-même ?
Ben oui, puisque j'ai le sentiment depuis longtemps que je comprends ma vie quand je l'écris, que je suis un peu autrement comme Fabrice à Waterloo qui n'a rien compris de ce qu'il voyait. Et donc ma vie, c'est de vivre et de revivre, de repasser par le tamis des mots, des silences, du blanc entre les mots, du souffle, pour essayer qu'ils restent, vous savez, comme les orpailleurs au fond de leur grande passoire, de leur grand ami, des petites choses qui brillent.
Ça, c'est la meilleure définition de l'écriture, mais il faut accepter la boue, la gangue, et puis pour voir les éclats de...
Et il y avait une phrase de Cioran que j'aimais beaucoup, il dit « il faut avaler la mer avec le sucré ». Alors oui, s'il y a du sucré, même si maintenant j'aime plutôt le salé, mais s'il y a des choses douces, ça veut dire qu'il y a eu du dur.
Vous avez fait des études de droit et Sciences Po, pourquoi le droit ?
Parce que c'était à 300 mètres de chez moi.
Ah, c'est tout ?
C'est tout, oui. Parce qu'à cette époque, j'avais 20 ans et je croyais que je deviendrais un grand champion cycliste. Et ma mère m'avait dit, mais cycliste, c'est pas un métier. Et inscris-toi quelque part dans une université. Et donc, on habitait à La Rochelle. Et si je longeais la mer, j'allais à la fac de droit. Donc j'ai dit, c'est bon, je vais faire ça.
Ça, on va y revenir au vélo, sans doute. Vous avez passé plus de 20 ans au Monde. Est-ce que vous pouvez raconter la première apparition de votre nom dans le journal en 81 ?
Alors, vous remontez loin, là. Hein.
Mais moi, j'aime bien remonter loin, parce que j'aime bien faire des portraits complets des invités.
C'est les saumons à leur source, oui. Ben, écoutez, justement, j'avais ma licence de droit, j'avais fini à Nanterre, et c'était 80-81, donc une période très politisée, et j'avais rencontré dans une manif, enfin, on s'était fait attaquer par des gars du GUD, le groupe Union Défense d'extrême droite. Je ne sais même pas ce que c'était. Mais simplement, on s'est vraiment cogné et je me suis retrouvé avec quelques copains inculpés pour coups et blessures parce qu'on s'était cogné avec ces mecs-là. Et donc là, tout d'un coup, j'ai eu le sentiment que c'était donc entre les deux tours de la présidentielle, et je me souviens au journal de 20h, 11 étudiants de Nanterre inculpés pour coups et blessures. Bon, ma mère était complètement affolée, qui m'avait laissé partir à Paris avec beaucoup de difficultés. Et heureusement, d'une certaine manière, Mitterrand a gagné, et ces poursuites ont été arrêtées. Mais là, j'ai décidé de faire de la politique, non pas comme un militant, mais d'aller à Sciences Po. Et en révisant pour passer l'écrit de Sciences Po, il y avait un écrit de droit, je suis tombé sur l'article 16 de la Constitution, qui était l'article des pleins pouvoirs, celui qui avait permis à Hitler de prendre le pouvoir en Allemagne, l'équivalent en tout cas, que Hindenburg lui avait donné le pouvoir. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une feuille d'écolier, une feuille à carreaux, et j'ai écrit un texte sur l'article 16. Quel avenir pour l'article 16 ? Et figurez-vous que, il y a les innocents aux mains pleines, j'ai envoyé ce texte, non dactylographié, au Monde, journal Le Monde, il n'y avait pas de nom, je ne connaissais pas de nom, et un rédacteur en chef, à l'époque, qui s'appelait Philippe Boucher, m'a appelé sur mon téléphone fixe, il n'y avait pas d'autre téléphone, pour me dire, écoutez, jeune homme, j'ai vu votre texte, c'est intéressant, venez me voir. Et me voilà, rue des Italiens, dans un petit cagibi, et il me dit, vous avez écrit, De Gaulle avait confisqué les pouvoirs, on va mettre rassemblé entre ses mains. Enfin bref, il fait quelques corrections. Et il me dit, on va le publier. Bon, les semaines passent, et un matin, il m'appelle, il me dit, ce serait bien. Vous pouvez acheter Le Monde cet après-midi. Et il s'est passé quelque chose de très curieux d'ailleurs, c'est que, évidemment, donc j'avais mon article en page 2, il y avait un astérisque qui renvoyait à ma condition d'étudiant en droit, alors qu'il y avait Jacques Robert, patron d'Assas, celui qui abritait d'ailleurs les mecs du GUD, qui avait signé aussi dans cette page, donc on cohabitait là. Et j'ai eu ce sentiment très curieux qu'un jour ce serait ma maison, que ce journal ce serait ma maison. Allez savoir pourquoi.
Est-ce que vous avez gardé le mot de Robert Badinter qui vous dit que vous lui avez rendu son journal ?
Oui, ouais, bien sûr. Ça, c'est un mot inoubliable.
Alors, j'ai une question aux journalistes. Est-ce que le monde, le vrai monde, va plus mal qu'avant ou est-ce qu'on le croit à chaque époque ?
Ben, je crois que c'est un peu la maladie de notre métier, c'est qu'on annonce comme nouveau ou comme nouvelle des choses qu'on a oubliées, en fait. Donc, non, chaque époque a ses mots. Et ceux d'aujourd'hui, ils sont sûrement pas pires que ceux d'hier. Simplement, ils se manifestent, ils prennent un autre visage, avec notamment le mensonge industriel, la dématérialisation. Voilà, mais je pense que le mal, enfin, depuis Hannah Arendt, on sait que le mal, ça vient de très loin et ça peut durer très longtemps.
Question au romancier, est-ce qu'on connaît mieux les émotions à force d'écrire dessus ?
On les apprivoise. Moi, je crois qu'on ne sait jamais. C'est ça qui, d'ailleurs, est la porte ouverte toujours au prochain roman. C'est qu'on ne sait pas.
Mais vous avez tout de même mieux appréhendé certaines choses à force d'écrire ?
Oui, enfin, une chose. Je sais qui je suis, en gros.
Et qui êtes-vous ?
Ben, en tout cas, quelqu'un qui a eu un père, une mère, et qui a été... conçu dans l'amour, ce qui est quand même quelque chose d'important. Il y a de l'amour dans ma vie, même si cet amour était caché, ne se montrait pas, ne disait pas son nom, ne montrait pas son visage. Vous savez, je crois qu'une vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, qui vous aime, bah vous ne vivez pour rien, vous vivez pour personne. Et je crois que la grande affaire pour moi, ça a été, à travers mes romans, d'élucider le réel, ce qui est un paradoxe. Quand on est un journaliste, le réel, on l'élucide par le réel. Moi, je l'ai élucidé par la fiction.
Peut-être que c'est la pudeur qui fait ça.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Éric Fotorino, vous publiez Des gens sensibles aux éditions Gallimard et dans une chronique sur la chaîne dans C'est la France, vous vous interrogez sur la sensibilité contemporaine. Vous disiez que c'était un trait de l'époque, sinon peut-être même un travers. Et je vous cite, nous serions trop sensibles, émotifs jusqu'à la sensiblerie, hypersensible même. Comment vous considérez-vous ?
Ben, c'est-à-dire que pendant longtemps... J'ai entendu les adultes dire de moi, il est hypersensible, il est trop sensible. C'est-à-dire que, non pas que je pleurais particulièrement plus que d'autres enfants, mais simplement, c'est comme si j'avais été construit avec une peau en moins et qu'on pouvait m'atteindre de façon beaucoup plus facile. Et que j'avais pas de carapace, quoi. Je savais pas me protéger de rien. Et je pense que ça a été longtemps... Alors, je ne sais pas si c'est une maladie, mais c'était quelque chose d'handicapant, comme une infirmité. J'avais souvent la gorge qui se serrait, et je ne savais même pas pourquoi, d'une certaine manière.
Et vous en parlez au passé, ça a évolué ?
Oui, parce que d'abord, je ne suis pas un vieux monsieur, mais ça approche quand même. Donc le temps a passé, et puis je pense que je me suis accepté, c'est-à-dire j'ai accepté d'avoir était quelqu'un qui ne savait pas sa place pendant très longtemps, qui a changé de nom, qui a eu un doute sur ses parents, que ce soit son père ou ses pères, et puis même ma mère, puisque je croyais que c'était plutôt une sœur, qu'une grande sœur, qu'une mère. Donc si vous voulez, quand vous avez cette espèce de marécage de l'identité sous vos pieds, forcément vous ne pouvez pas bien marcher droit.
On va évidemment, je rassure les auditeurs, revenir à la question des pères, puisque ceux qui ne sont pas familiers avec votre histoire peuvent être interloqués quand on dit les pères, mais on va l'expliquer bien évidemment. Et là, je fais une aguiche. Dans Des gens sensibles, vous nous plongez, Eric Fotorino, dans le Paris de l'édition des années 90. Jean Foscolani rêve d'être édité aux éditions du Losange, situé rue du Samovar et dirigé par Charles Follet. Tous les noms sont faux, mais les inspirations pour ce livre sont-elles réelles en partie ?
En partie, oui. Vous savez, tout est vrai parce que rien n'est vrai, mais ou l'inverse. En fait, ce texte, Les gens sensibles, j'ai vraiment payé ma dette à un souvenir très très ancien.
De personnages. C'est 30 ans plus tard,
plus
la
que
narration.
Ça, oui, c'est ça. Oui, 30 ans. Non, vous avez raison. C'était les années 95, 94, 95. Donc, je n'avais pas 20 ans. Mais j'étais un jeune auteur, jeune romancier, et j'ai eu cette chance de rencontrer une attachée de presse qui était plus qu'une attachée de presse, qui se consumait par la littérature.
D'un Clara écrivain, dans le livre.
Clara, dans ce roman, un écrivain algérien qui était adulé dans son pays et bien ailleurs, dans le monde entier, et qui était poursuivi par les islamistes, les militaires, enfin qui vivait la terreur. C'était un homme qui avait peur, pourtant il était courageux, mais il avait peur. Et ils l'ont pas tué, mais il en est mort quand même. Et puis cet éditeur, Charles Follet, était une figure effectivement du Paris des années 90, qui avait édité les plus grands, des Nobel, des Tollard, des poètes, et qui avait traduit Garcia Marquez, Cent ans de solitude, il s'appelait Claude Durand, et qui était vraiment un homme, j'allais dire, comme on n'en fait plus. Si, sûrement qu'on en fait d'autres comme ça, mais simplement je ne les connais pas. Mais qui avait une idée de la littérature tellement élevée, tellement exigeante, que vous ne pouviez pas être médiocre. Ça, c'était... Et à un moment donné, il dit à ce jeune Foscolani, qui est un peu mon double, il lui dit, vous êtes un écrivain, mais vous n'avez encore rien écrit.
Et alors Fosco pense, j'ai compris qu'on n'écrit jamais le plus beau roman du monde comme il n'existe pas de plus beau jour de sa vie. L'ombre triomphe toujours de la lumière. Clara a disparu et Saïd. Moi aussi, sans doute. J'espère que vous n'êtes pas aussi pessimiste.
Oui, quelque chose de moi a disparu, bien sûr. Mais la vie, c'est de se survivre, toujours. Et donc, si j'évoque... Ces deux figures, en effet, que j'ai enterrées l'une après l'autre. J'ai écrit sur eux à partir de l'an 2000. Vous imaginez, j'ai laissé 25 ans passer sur moi. Vraiment, le temps a roulé sur moi comme un camion. Donc, il m'a aplati plein de choses et il a fait ressurgir en relief ce qu'il y avait d'essentiel. Et l'essentiel, c'était à la fois l'amour des uns pour les autres. Je crois que c'était un trio qui s'aimait. Le respect, l'admiration. Et l'idée que la littérature allait non pas leur sauver la vie, puisque peut-être qu'elle leur a sauvé la mort d'ailleurs, peut-être qu'ils sont morts heureux, mais je pense qu'on avait, enfin ils m'ont aidé à placer l'écriture plus haut que tout. Et comme je n'avais rien de plus haut que tout dans ma vie, ça tombait bien que l'écriture arrive.
Mais c'est un mélodrame émaillé d'une mélancolie violente, puisqu'il est question d'autodestruction et du désespoir de deux êtres au charme absolu, deux êtres auxquels le narrateur apporte un peu de lumière.
Charme absolu, j'ai écrit une phrase très simple. Au début, elle était compliquée, puis je l'ai simplifiée, comme je fais souvent. Et à propos de Clara, j'ai écrit « Elle était belle d'avoir renoncé à l'être ». Et pour moi, j'ai vraiment... peser ces mots, enfin peser, c'est pas une balance de la justice, mais c'était essayer de montrer cette beauté fulgurante qu'elle avait été et qui est incarnée par un tableau de son grand-père qu'elle a même pas accroché à son mur, qui la représente petite fille avec une tête un visage de félin, des yeux clairs, etc. Et comment, j'allais dire, le malheur, l'alcool, la cigarette, les nuits sans sommeil étaient passés sur ce visage et l'avaient détruit. Charme fou. Et pour Saïd, c'est autre chose. C'était lui aussi, il était d'une beauté d'archange quand il était jeune. Et puis, quand moi je l'ai connu, c'est un homme qui boit, qui fume et qui est traqué. Donc, son visage est décomposé. Et donc, ces deux êtres, ils avaient respiré l'un sur l'autre, non pas l'envie de vivre, mais peut-être de s'accompagner dans la fin.
On ne connaîtra pas le nom de Saïd, ni de Clara.
Si, Saïd, il était très connu, c'était un écrivain qui s'appelait Rachid Mimouni, qui a écrit des livres extraordinaires, notamment Le fleuve détourné. C'est le premier roman qui montre que le peuple algérien a été volé de sa révolution par le FLN. Et donc, ceux qui lisaient en Algérie le déifiaient, même trop, il en avait même un peu marre de ça. Et Clara était une attachée de presse, j'allais dire comme on n'en fait plus. Mais non pas que celles d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur, au contraire, mais c'est simplement qu'elle avait tellement dissous sa vie dans les auteurs et la littérature. Elle s'appelait Chantal Lapicque, et elle avait cette espèce de feu sacré qui faisait que vous ne pouviez pas lui dire non, jamais.
Plus de 60 000 morts depuis janvier 92, depuis l'interruption du processus électoral. Après sa victoire au municipal de 90, le Front islamique du salut venait d'arriver en tête du premier tour des législatives. Il n'y aura pas de second tour, l'armée prend le pouvoir. Un grand chef historique, Mohamed Boudiaf, est alors appelé à la tête de l'État. Il sera assassiné 6 mois plus tard. AIS et GIA commencent alors à faire parler les armes. Au départ, maquis et guérilla classique, cible principale, l'armée. Et puis très vite, le terrorisme urbain. Objectif, les intellectuels, les hommes politiques, enfin, les étrangers.
Soir 3 du 10 novembre 97, présenté par Philippe Pester. Éric Fautorino, dans votre roman, Saïd, le grand écrivain algérien, est alcoolique, rescapé d'un attentat dont il garde 3 morceaux de métal incrustés dans un tibia. Clara, l'attachée de presse irrésistible, a aussi du métal dans le corps suite à un accident. Elle se suicide au champagne. Saïd, au whisky. Et ce qui résonne, c'est pour ça que j'ai tenu à passer cette archive, c'est que vous dépeignez bien la violence de l'époque. Tout à l'heure, je vous demandais est-ce que finalement tout va plus mal aujourd'hui, ou est-ce qu'à chaque époque on se demande. Là, dans votre livre, il y a les attentats du FIS, le Front islamique du salut, il y a l'attentat dans l'RER à Saint-Michel en 95, il y a l'enlèvement de Ben Barka devant la brasserie Lib.
Bien avant. Oui. Et puis il y a les moines de Tibérine aussi. C'est vrai que, si vous voulez, j'ai noué ce récit avec l'histoire. Et cette histoire malheureuse, on le voit encore aujourd'hui entre la France et l'Algérie.
Boualem Sansal, ça résonne particulièrement.
Alors, vous savez, quand j'ai donné mon manuscrit chez Gallimard, les premiers qui l'ont lu m'ont dit « Mais en fait, c'est incroyable parce que tu parles de Boualem. » Je dis « Non, je ne parle pas de Boualem, mais oui, bien sûr, parce que, mais imaginez un texte écrit en 2000, puis en 2018, puis en 2023, et le voir arriver comme une synchronicité avec l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est Nietzsche, quoi, c'est l'éternel retour. Un mal que vous n'avez pas soigné à un moment donné, il vous reviendra encore sous une autre forme.
Il y a une allusion aussi, d'ailleurs, en parlant de ce mal qui revient sous une autre forme, à Salman Rushdie, dans le livre.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mots que vous écrivez font que vous êtes en danger. Vous mettez votre peau au bout de vos idées. Et c'était le cas pour Rachid Mimouni, pour Saïd dans ce livre, et comme ça a été le cas, et bien sûr, pour Salman Rushdie.
Vous avez cette réflexion à un moment à propos de Saïd, je vous lis. « Jamais on ne parlait de son style, de son écriture ou de ses personnages à Saïd, ou alors toujours en les rattachant à cette Algérie malade dont il traquait les blessures. Il est devenu malgré lui un symbole, beaucoup d'écrivains peuvent le regretter. »
Et oui, ça je pense que c'est quelque chose de très important sur qu'est-ce que c'est que la littérature. Et j'y ai pensé encore ces jours derniers. J'avais eu la chance de rencontrer plusieurs fois Mario Vargas Llosa. Pour Vargas Llosa, la littérature était inséparable de la politique. Il ne pouvait pas imaginer dans sa génération que des romans n'embrassent pas complètement la chose politique. Eh bien, quelqu'un comme Saïd dans mon roman, peut-être aussi comme Boualem Sansal aujourd'hui, ce sont des écrivains qui ont pris fait et cause, à bras-le-corps, la douleur de leur pays, la douleur de leur peuple, de leurs origines, des Berbères en particulier. Mais ce sont des artistes, ils ont créé de l'art, ce ne sont pas des hommes politiques. Et je crois que la souffrance qu'a Saïd, c'est d'être toujours pris, agité comme étant quelqu'un qui est une sorte d'emblème de l'indépendance, de la liberté, de la démocratie, alors que lui, il dit « Mais moi, je suis un écrivain. Personne ne dit « Est-ce que j'écris bien ? Est-ce que ce que j'écris vous touche ?» Et évidemment, un écrivain, on doit le reconnaître dans les 5 premières lignes.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Éric Fottorino, vous publiez Des gens sensibles aux éditions Gallimard. J'aimerais qu'on dise un mot du personnage mystérieux de Clara, puisqu'elle est un peu paradoxale, ou disons ambivalente. Elle se donne entièrement, elle se fait trahir, elle dépanne, elle sauve, elle s'oublie, mais elle prend le pouvoir sur les gens qu'elle aime. Elle est intrusive.
Ah oui, complètement. Il y a une scène où le héros Fosco est parti quelques jours chez sa mère à Royan, et elle lui demande le numéro de téléphone, et lui, il ne lui donne pas parce qu'il dit qu'elle ne va pas arrêter d'appeler, ça va être terrible. Et donc, elle lui demande le numéro d'une cabine téléphonique, et il ne sait même pas, lui, qu'on peut donner un numéro de cabine téléphonique. Et il lui donne, et un soir, très tard, où il passe à hauteur de cette cabine sur le front de mer, il entend une sorte de bourdonnement, il entre, il décroche, et il entend l'éclat de rire de Clara. Je savais bien que tu décrocherais. Et il va passer la nuit à l'écouter. Donc, vous imaginez jusqu'où peut aller ce lien, c'est presque comme un cordon ombilical, ce fil de téléphone, parce qu'il y avait encore des fils au téléphone.
Mais je me souviens, vous savez, je ne suis pas née de la dernière pluie. Clara a 15 ans de plus que Fosco. Vous écrivez à son sujet, ce qui frappait dans son visage, c'était la blessure. Ouais. Elle décide de faire du livre de Fosco, Des gens sensibles, un succès. Et lui vit avec ce duo, Saïd et Clara, une vie interlope. Il devient chauffeur secret pour de singulières excursions et effraye avec le Montparnasse littéraire. Mmh. Ça vous est arrivé ?
Des choses comme ça me sont arrivées, de tromper la vigilance des gendarmes du GIGN. On se donnait des rendez-vous. Bon, il faut imaginer, les années 90, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de tout ça. Donc, on se donne un rendez-vous à un tel endroit, et moi, je les attendais à minuit, dans une vieille Ford Escort cabossée. Et là commençait la tournée des Grands Ducs que elle, Clara, faisait avec James Baldwin. Baldwin ne venait jamais à Paris sans... Il voulait aller boire, mais il voulait boire avec elle. Et donc, tous les cafés de Montparnasse. Et ce qui était assez beau, je trouve, c'est que... Bon, bien sûr, alors là, il sombrait au fur et à mesure, et puis les bulles de champagne vieillissaient un peu dans les coupes, le whisky s'assombrissait, et les humeurs aussi. Donc, après... Je les emmenais ailleurs, et je me souviens une fois, à 3h du matin, ils me disent, Saïd dans le roman dit « J'aimerais voir la mer », et donc on est parti à la mer.
Donc ça c'est vrai.
Ouais.
Tout à l'heure vous avez fait référence justement au fait que l'éditeur dise au narrateur qu'il est écrivain mais qu'il n'a encore rien écrit, et vous dans la vie c'est Eric Orsenna qui vous dira un jour « Est-ce que vous savez que vous êtes un écrivain ?»
Oui. Oui, oui, c'est Eric qui m'a, d'une certaine manière, qui a été ma sage-femme, quoi, qui m'a accouché comme un... Vous savez, souvent, vous ne voyez pas ce que vous êtes. C'est le regard des autres. Pourquoi Philippe Boucher, quand j'avais 20 ans, va publier cet article dans Le Monde, sur l'article 16, alors que je lui ai envoyé ça à la main. D'ailleurs, il m'a dit qu'il faudra dactylographier vos textes si vous voulez faire ce métier. Eric Orsenna, c'est un peu pareil. J'écris un livre d'économie qui a eu le prix du meilleur livre d'économie pour ses qualités littéraires, ce qui était quand même assez paradoxal. Mais je ne suis pas un paradoxe près. C'était sur les matières premières, le café, le cacao, le caoutchouc, vous imaginez. Et Eric Orsenna, l'année d'après que j'ai publié ce premier livre, a eu le prix Goncourt pour l'exposition coloniale où il était beaucoup question de caoutchouc d'ailleurs. Et il m'a dit, mais vous savez, vous êtes un écrivain. Et moi, je ne savais pas trop, non, je ne savais pas trop.
Le narrateur rencontre aussi des figures littéraires notoires, comme oui. Le Clésio et Nathalie Sarraute. Et Nathalie Sarraute lui donne ce conseil, restez près de votre enfance.
Oui, c'est bien, j'aurais bien aimé, j'ai jamais rencontré Nathalie Sarraute. Vous savez, c'est un roman. C'est un jeu de pistes, c'est un jeu de pistes. Et puis après tout, ce qui est vrai, ce qui est faux, le principal, c'est de faire un beau roman. Après, peu importe, ce qui est important, je trouve, c'est d'avoir justement mêlé, un peu comme du sang mêlé, justement, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que le vrai est vrai ? Quelquefois l'inventé est plus vrai que le vrai, vous savez.
Oui, c'est vrai, je le sais. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup amusée, c'est qu'à un moment, le narrateur trouve un stage au journal La Vie.
Ouais.
Et Clara, l'attachée de presse qui croit en son œuvre, est épouvantée par ça. Et ça m'a fait penser à Illusion perdue de Balzac, dans lequel vraiment toute la thématique, c'est est-ce qu'on est un artiste intègre et on fait une œuvre poétique, ou est-ce qu'on est un journaliste et on est corrompu ? Vous êtes les deux, pas corrompus, évidemment. Vous êtes journaliste et écrivain.
Je suis corrompu par moi-même, parce que je me corromps moi-même quelquefois.
Comment ?
Je ne suis pas de mon avis, toujours. C'est-à-dire, je veux faire une chose et j'en fais une autre. C'est la grande question du temps, le négoce du temps avec soi. Et puis c'est tellement facile de céder à plein de choses. Alors que l'écriture, c'est ne pas céder, justement. C'est toujours... Ou alors céder, S apostrophe, si vous voulez. Non, ce qui est intéressant, je trouve, quand j'ai écrit ce passage sur ce stage dans un journal, c'est que le Fosco, on lui attribue l'actualité, et le rédacteur en chef dit, moi, je garde le froid, je garde la littérature. Et moi, dans mon esprit, c'est le contraire. La littérature, c'est l'urgence absolue. Et l'actualité, c'est ce qui vous éblouit, mais c'est ce qui ne reste pas.
C'est aussi un livre d'amoureux de la littérature, évidemment. Il y a la fascination pour la collection Cosmo, Cosmopolite de Stock, c'est ça ? Et vous citez plein d'auteurs, James, Isaac Bashevis-Singer, Gombrowicz, Arthur Miller, bon, je ne vais pas tous les citer, mais est-ce que vous avez un conseil de lecture pour les auditeurs ? Par exemple, je prends au hasard L'invention de Morel, dont on ne parle peu aujourd'hui, et c'est dommage.
C'est sublime, moi je l'ai lu il y a très longtemps, j'ai dû le lire il y a 30 ans, mais L'invention de Morel, l'auteur était un ami de Borges, et c'est quelqu'un qui raconte en fait un monde d'illusions. C'est, on construit un monde et puis on se rend compte qu'il est illusoire, on pousse des portes et c'est encore autre chose. Donc ces espèces de mise en abîme permanente, voilà, c'est un texte fascinant.
On utilise le psychodrame en psychiatrie, c'est une forme de psychothérapie de groupe. Le psychodrame est le contraire de l'exclusion, moi je crois au plus grand nombre. Je suis né dans une île, donc l'île Maurice, c'est très loin tout ça, dans le temps et dans l'espace pour moi. Et ce contre quoi je me suis toujours opposé, en médecine comme en psychiatrie, c'est cette barrière, cette ségrégation entre le regardant et le regardé, celui qui guérit et celui dont on attend qu'il soit guéri.
Dans votre livre, Éric Fautorino, il est aussi question du poète, éditeur, neuropsychiatre et psychanalyste d'origine mauricienne, Jean Fanchette, qu'on entend en 71 sur l'ORTF. Et j'aime bien rendre hommage à des figures dont on parle peu, alors je vous laisse nous en dire un mot.
Oui, Fanchette, grand poète mauricien, c'est je pense un des poètes préférés de l'Ecclésio. Et Clara, depuis qu'elle est enfant, sa mère, comme elle dit, est une sorcière de la Caraïbe, et elle a été élevée à la fois dans ses poèmes d'un autre monde, mais en même temps de poètes plus classiques comme Heredia ou Musset. Et donc elle est ce mélange, ce métissage justement de mots et de mondes.
À un moment, le narrateur décide d'être l'enfant de ses livres. C'est très beau parce qu'il est las de n'avoir aucune information sur son père. Il se pense marocain, tunisien, parfois algérien. Il se demande même s'il n'est pas le fils de Ben Barka, puisque sa mère pleure à l'évocation de son nom.
Il confond Ben Bella et Ben Barka.
Oui, oui. Il ne sait que deux choses, c'est qu'il est fils de berbère et que Saïd ressemble à son père. Et là, c'est intéressant quand même de mettre en parallèle votre histoire familiale, Éric Fautorino. Vous avez été adopté en 70 par votre beau-père Michel Fautorino, dont vous avez pris le nom de famille. Et en 77, a eu la première rencontre avec votre père biologique, dont le nom de famille s'écrit Maman, mais se prononce Maman. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que chez vous, vie et littérature sont sans cesse liées, et c'est après la lecture de Rue des boutiques obscures de Modiano que vous êtes décidé à aller le voir.
Oui, vous avez dit beaucoup de choses là. C'est vrai que pour moi, vie et littérature sont liées, parce que je crois que j'ai écrit pour savoir qui j'étais. Je n'avais pas de grandes histoires épiques, comme beaucoup de mes amis écrivains qui racontent des choses extraordinaires avec des documentations, avec... Non, moi j'avais juste un vide.
Mais votre vie est très romanesque.
Alors, on peut dire qu'elle est romanesque parce qu'elle est devenue, enfin j'en ai fait quelque chose de romanesque, mais je crois que la plus grande fiction que j'ai pu écrire, c'est précisément d'avoir transformé tout ça, ce petit tas de cendres, comme disait Malraux, en une geste romanesque. Mais ce qui est certain, c'est que ses pères, en effet, un père adoptif né en Tunisie, un père naturel, biologique, né au Maroc, juif du Maroc. Donc l'Algérie est un trou noir entre les deux. Et donc la Méditerranée a coulé dans mes veines avant même que moi je la traverse. Un jour, quand j'avais 20 ans, j'ai traversé la Méditerranée. Mais elle était déjà en moi. Et ça, il m'a fallu du temps pour comprendre, puisque, et c'est une chose que je dis quelquefois, chacun de mes livres a été traduit du silence. Chacun. C'est-à-dire le silence, l'absence... La violence du silence, la violence de l'absence. À un moment donné, ça fait que vous êtes bancal, vous ne marchez pas droit, et donc il faut à un moment donné réparer. Autrement, vous tombez dans le gouffre qui est sous vos pieds. Donc l'écriture.
Mais vous pensiez avoir été abandonné par votre père biologique et l'histoire était très violente. Déjà, vous avez découvert que ce n'était pas le cas et il avait été rejeté, lui,
oui,
parce qu'il était juif.
Parce qu'il était juif et marocain, donc c'était la double peine. Mais c'est vrai que ce sentiment d'abandon, vous savez, le sentiment d'abandon, c'est quelque chose de terrible parce qu'il n'obéit pas à une rationalité. Je me souviens, enfant, quand j'ai 12 ans, pleurer sur un trottoir en attendant que ma mère vienne me chercher à l'école. Et être rassuré quand je suis dans une voiture avec mes deux petits frères, parce que mes parents vont faire des courses, je me dis, ils ne les abandonneront pas, eux. Donc, comme il y a mes petits frères qui ont, je ne sais pas, 2 ans et 1 an, je me dis, eux, ils ne vont pas les abandonner. Donc, si je suis avec eux, je ne serai pas abandonné non plus.
Comment s'est passée la rencontre entre vos deux pères à votre mariage?
Ah oui, ça c'est évidemment un événement, de faire se rencontrer deux hommes qui ont été si importants dans ma vie, l'un parce qu'il était là, l'autre parce qu'il n'était pas là.
Mais l'un s'est donné la mort?
Oui, oui, absolument. Mon père adoptif. Mais vous voyez, mon père adoptif s'est donné la mort en 2009, et je crois qu'il est mort deux fois. Il a voulu se tuer à 20 ans en Algérie, dans les Aurès. Donc l'Algérie arrive, pendant la guerre d'Algérie. Je crois qu'il a fait une mission qui était terrible et il aurait dû d'ailleurs y mourir. Il n'est pas mort et je pense qu'il s'était donné rendez-vous. Il s'était dit, le jour où la vie pour lui ne vaudrait plus la peine, il ferait ça. Et il l'a fait. Et donc ils se sont rencontrés finalement 3 ans avant ça. Et j'ai l'impression, maintenant, quand je vois, il y a même un petit film, enfin un beau film d'ailleurs, qu'a fait un de mes amis, Thierry de Lestrade, sur ce mariage, et on voit mes deux pères, et j'ai l'impression que l'un passe le relais à l'autre. Maintenant, je ne peux pas voir cette image sans me dire, l'un dit quelque chose implicitement à l'autre. Bon, j'ai été le père du début, tu vas être celui de la fin.
Pour les auditeurs qui voudraient creuser cet aspect de votre œuvre, je recommande L'homme qui m'aimait tout bas et Question à mon père.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau
votre premier choix musical, Eric Fotorino. C'est un beau roman, c'est une belle histoire de Michel Fugain.
Oui, oui, vous savez, les artistes, il faut les voir, il faut les entendre. Et quand j'avais 14 ans, la première fois que je suis allé à un spectacle vivant, comme on dit aujourd'hui, sur une scène des Quinconces, pas loin de la Garonne, c'était Michel Fugain et le Big Bazar. Et je suis ressorti de cette soirée avec une énergie et une envie de vivre, d'être joyeux, d'être heureux, de danser, de chanter, extraordinaire. Je me souviens, il était beauté, il ressemblait un peu à un personnage du Moyen-Âge, une sorte de Robin des Bois. Et il y avait ce Big Bazar qui dansait, qui chantait. Et donc cette chanson, qui est assez mélancolique, mais en même temps qui est très belle, c'est que, ben voilà, on se rencontre et puis on se sépare, on se rencontre, on vit quelque chose, un beau roman. Une belle histoire. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé qu'avec ça rimait bien avec les gens sensibles.
Eric Fotorino, cette chanson, on l'entend en imagination dans votre livre, dans un restaurant où Saïd emmène le narrateur. Qu'est-ce que c'est ?
Oui. C'est une belle chanson.
Vous ne voulez pas dire le titre et le.
Ravava Inouva, c'est Idir.
Idir.
Idir, oui. Idir que j'ai connu dans cette même période, grâce à Saïd et Clara, le narrateur, il est plongé dans ce monde berbère, algérien. Et c'est quelque chose qui m'a complètement embarqué parce que c'était des artistes. Enfin, ça, c'est le premier tube mondial devenu d'Algérie. Didier, qui est mort au moment du Covid il y a quelques années. Et il y avait une telle délicatesse chez cet homme et une telle force en même temps que quand on écoutait cette chanson, tout le monde s'arrêtait pour écouter, et après reprenez le couplet. C'est un petit conte, hein, c'est un petit conte dans la forêt, d'un grand-père. C'est rien du tout, mais c'est immense, parce que il y a tellement, c'est comme une dentelle, quoi. Il y a quelque chose de tellement fragile là-dedans, et c'est une ritournelle qui vous quitte plus. Et cette chanson, elle est associée pour moi à ces moments qu'on passait ensemble avec ces hommes et ces femmes, comme une sorte de refuge dans des cafés, dans des restaurants marocains, pour essayer de mettre à distance ce qui se passait en Algérie au même moment.
Il y a une mélancolie douce dans cette chanson, il y a une mélancolie violente dans votre livre. Là, vous avez parlé de refuge, et je pense à un moment, à votre dépression, à 17 ans, quand vous avez trouvé refuge chez votre tante à Royan, et ce sont les livres qui vous ont sauvé.
Oui, mais vous avez trouvé ça où?
Parce que, en fait, je suis votre père, je suis votre troisième père, mais vous ne le savez pas.
Oui. Ben oui, 17 ans, c'est un âge bizarre pour moi, parce que c'était bientôt le bac, c'était mes rêves de champion cycliste auxquels je tenais fort. Et puis, c'était la découverte d'un père, puisque, encore une fois, on m'avait menti, il n'y avait pas de père. Donc, et puis tout d'un coup, il y en avait un, et donc il fallait aller le chercher, il m'avait abandonné, mais en fait, ce n'était pas vraiment un abandon. Enfin, vous imaginez la confusion, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, dans ma vie, je n'ai plus fait confiance à personne. Mais personne.
Ça a changé ?
Les adultes, bah, non, et heureusement que ça a changé, heureusement qu'il y a des personnes dans ma vie à qui je fais confiance. Mais à ce moment-là, c'était tabula rasa. Il y avait à qui je pouvais faire confiance. Et donc, oui, c'était une dépression que j'ai guérie par la bibliothèque de mon oncle, à côté de Royan, et de mon oncle et de ma tante, et puis par le vélo. Voilà. Et je passais des heures. Mais vous savez, peu de gens peuvent dire comment décolle un héron d'un fossé. Moi, je sais, parce que je l'ai regardé tant de fois sur mon vélo, très tôt le matin, au moment où la nuit se détache, et il y a la brume, et il y a le héron. C'est très dur pour un héron de décoller, je peux vous le dire.
Alors ça, j'ai promis qu'on parlerait de vélo, mais pour terminer sur la littérature, votre dépression, vous l'avez soignée grâce au livre, c'est ce que vous dites, et notamment deux auteurs, Jacques Ellul et Jean-Paul Sartre.
Oui, Jacques Ellul était un philosophe protestant bordelais qui a beaucoup écrit sur les sociétés technologiques, la technique, et il est très actuel aujourd'hui, j'incite les lecteurs à lire Jacques Ellul. Et Jean-Paul Sartre, un livre de Sartre, c'était Les mots. Il est à La Rochelle, dans un endroit que je connais très bien, et il découvre sa laideur en voyant son visage dans l'eau du port. Et il se découvre lui, il découvre ce qu'il est. Et d'une certaine manière, j'étais avec le petit Poulou comme ça, comme s'il avait été un copain. Et puis il y a eu quand même aussi ce poème d'Henri Michaux dans Équador, Je suis né troué.
Eric Fotorino, quand je vous écoute, je pense à cette interview de 2018 où vous dites « Je me suis toujours réfugié dans des lieux plus grands que moi pour que le moi n'existe pas ». Est-ce que vous vous aimez ou est-ce que vous vous supportez ?
Disons que j'aime ma vie. J'aime la vie que je m'invente. Parce que précisément, il y a de l'envie dans ma vie. Et il y a de l'amour, l'amour que je peux donner, l'amour que je peux recevoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est central. C'est pas une question de réussite. Ou professionnel, ou vous voyez, c'est l'idée qu'est-ce qu'on est quand on est vivant si on n'est pas aimé et si on n'a pas d'amour pour d'autres. Donc ça, oui, mais effectivement, je me souviens quand je suis rentré au monde, ça a été pour moi un grand soulagement de disparaître. C'est-à-dire, je disparaissais derrière un titre en gothique qui s'appelait Le Monde. Je me souviens, j'allais dans des conférences de presse, je disais jamais mon nom, je disais Le Monde. Et puis on m'asseyait souvent en très bonne place d'ailleurs. Et donc ça suffisait, ça me suffisait. Mais ce gros caillou dans la chaussure qui devenait un rocher, à un moment donné, il a bien fallu l'affronter. Et c'est mon camarade Eric Orsena qui m'a aidé à le casser.
Ça n'a pas été très compliqué pour moi de vous choisir. Je sais que certains se sont dit « Ah, mais comment ça se fait que j'ai été choisi ? Je n'y croyais pas. » Ben moi, j'y croyais pour vous déjà. Chacun de nous n'aurait sûrement pas fait le Tour de France tout seul. Mais vous allez arriver à le faire. Parce qu'on est ensemble. J'aimerais que vous repartiez de là avec un passeport de confiance pour toute votre vie. Vous direz, tiens, moi j'ai monté le Ventoux, j'ai monté l'Alpe d'Huez. Ben là, vous allez aller au maximum de ce que vous pouvez faire. N'essayez pas d'aller au-delà.
C'est le coach Eric Fotorino qu'on entend dans le documentaire de Thierry Delestrade et Sylvie Gilman intitulé La Belle Échappée. Vous avez participé au tour de fête aux côtés de 23 jeunes cyclistes amateurs en 2013, une course organisée pour le centenaire de la Grande Boucle, 3500 km. Et votre père adoptif était kinésithérapeute, c'est lui qui vous a donné le goût du vélo. Vous avez consacré plusieurs ouvrages au vélo, dont un dictionnaire amoureux du vélo. Vous avez été chroniqueur du Tour de France. Vous continuez à faire du vélo parce que vous avez fait du cyclotourisme et des courses.
J'ai tout fait.
Oui, et de l'observation de Héron.
C'est une folie, exactement. C'est une folie douce, un petit vélo dans la tête. Oui, je suis toujours sur mon vélo. Quand je viens faire ma chronique sur France Inter le mercredi, c'est sur mon petit vélo qui est sagement gardé à l'accueil de la maison de la radio. Autant que je peux, je pédale parce que c'est quelque chose que j'ai métabolisé. Je pense à vélo ou je m'évade à vélo. Vous savez, le terme que je préfère comme cycliste, c'est le verbe s'échapper. Je m'échappe. Il y a quelque chose qui fait que je deviens très léger sur un vélo. Oui.
Qu'est-ce que vous fuyez ?
Les emmerdements, la vie quotidienne, tout ce qui pèse. Heureusement, je m'en détache beaucoup de tout ça. Mais je veux vous dire qu'à certaines époques de ma vie, c'est vrai que le vélo a été m'a sauvé la vie d'une certaine manière. Et par ailleurs, c'est quelque chose que je pense les sportifs peuvent comprendre, mais aussi les écrivains, les artistes. C'est que un effort physique est une préparation extraordinaire pour créer.
En parlant de création, revenons à l'écriture pour achever cet entretien. À Sciences Po, vous avez lu tout Marguerite Duras.
Oui.
Et Marguerite Duras a dit « Écrire, c'est hurler sans bruit ». Et vous, dans une interview, Eric Fotorino, vous dites que le moment déclencheur a été quand vous vous êtes dit que dans le mot « écrire », il y avait « crier ». Et vous vous êtes rendu compte que vous ne faisiez que ça depuis plusieurs décennies.
Et que mon prénom, Eric, si vous changez les notes, j'allais dire, vous voyez, vous avez un cri encore. Oui, je crois que c'est ça. C'est pour ça que ça me correspondait bien, l'écriture. Parce que c'est un silence qui hurle. Et moi, je suis pas quelqu'un dans la vie qui hurle, du tout. Je suis plutôt du sang-froid, je suis un faux calme, mais je suis calme. Et les moments où il peut y avoir beaucoup de pression, de stress, je pense que je sais quand même les affronter calmement. En revanche, l'écriture, elle déchaîne, j'allais dire, ou elle déploie chez moi tout ce qu'il y a peut-être de violon, d'obstiné et d'obsessionnel pour aller arracher du vrai dans le faux.
Merci beaucoup Éric Fautorino.
Merci Eva.
Votre roman « Des gens sensibles » est paru chez Gallimard. Les prochains numéros du 1 seront consacrés à Astérix et au pape François, pas en même temps bien évidemment. On vous retrouve sur la chaîne tous les mercredis à 13h55 pour votre chronique « C'est la France ». Vous serez le 7 mai à la procure de Tournai en Belgique et les autres rencontres sont indiquées sur le site de Gallimard. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini et Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Vincent Godard.